Bonjour à tous, à chacun. Le texte que nous allons évoquer ce matin, et nous allons poursuivre notre parcours dans l'évangile de Marc, évoque deux notions qui peuvent peut-être mettre mal à l'aise. Ce sont les notions de pur et d'impur. Et ces notions de pureté et d'impureté, on le retrouve dans différents domaines en fait, de la vie. En chimie, par exemple, un corps pur, est-ce qu'il y a des chimistes parmi nous ? Un corps pur, c'est quoi ? Un corps pur, c'est une substance qui n'est composée que d'un seul type d'élément. D'accord ? En acoustique, alors ça je l'ai découvert, je ne savais pas, mais en acoustique, il y a un son pur. Le son pur correspond à une onde sinusoïdale dont la fréquence et l'amplitude maximale sont constantes au cours du temps, comme vous le voyez sur le petit schéma là. Le son d'un diapason, il paraît, est un son pur, est un exemple de son pur. En termes de race aussi, les nazis considéraient la race aryenne comme la seule race pure. Et on sait tous les dégâts que ça a pu faire, malheureusement. Dans plusieurs religions, on retrouve aussi cette notion de pureté. Dans l'hindouisme, par exemple, la main gauche et les chaussures sont impures. C'est comme ça, c'est la religion qui veut ça. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ainsi. Et cette notion de pureté et d'impureté traverse aussi toute la Bible. Et dans le passage que nous allons lire maintenant, Jésus nous donne sa propre définition de la pureté et de l'impureté. Et c'est une définition révolutionnaire. Et ce matin, donc, nous poursuivons notre parcours dans l'évangile de Marc. Nous allons nous retrouver dans Marc au chapitre 7, du verset 1 au verset 30. Et on va découper ce passage en trois morceaux. Et on va lire le premier morceau du verset 1 au verset 13, dans Marc 7. Marc 7, verset 1 à 13. Des pharisiens et des spécialistes de la loi, venus de Jérusalem, se rassemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. En effet, les pharisiens et les juifs, en général, ne se mettent jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leur ablution. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de laver rituellement les coupes, les pots et les vases de bronze. Les pharisiens et spécialistes de la loi demandèrent donc à Jésus : Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres ? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ? Hypocrites, leur répondit-il. Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie où il est écrit : Ce peuple m'honore du bout des lèvres. Mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Puis il ajouta, « Ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, que dites-vous ? Si un homme dit à son père ou à sa mère, « La part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire offrande à Dieu, alors vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous transmettez, et vous faites bien d'autres choses, du même genre. » Dans ce texte, on retrouve des pharisiens et des spécialistes de la loi qui se rassemblent autour de Jésus. Alors ce n'est pas fortuit, loin de là. Ces chefs religieux ont fait un long déplacement depuis Jérusalem, de plusieurs jours, exprès, pour venir rencontrer Jésus en Galilée. La renommée de Jésus s'est répandue et ces religieux viennent de Jérusalem pour évaluer Jésus, pour évaluer son enseignement. Ils se sont déplacés pour se rendre compte de ce que disait Jésus, de ce que faisait Jésus. Jésus, on le sait, dans l'évangile de Marc, a déjà eu plusieurs altercations avec les chefs religieux en Galilée. On le voit en particulier en Marc 2, au verset 16 par exemple, à propos de ce qu'il mange, du fait que Jésus mange avec des pécheurs notoires. Au verset 18, à propos du fait que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Au verset 24, à propos du sabbat, où il y a eu plusieurs occurrences de problématiques avec les religieux de Galilée par rapport au sabbat. On peut imaginer que les religieux de Galilée, les chefs religieux de Galilée, sont dépassés par la situation. Et donc, on fait appel à leur responsable à Jérusalem pour qu'ils viennent enfin clouer le bec à cet homme, à Jésus, pour qu'ils viennent enfin le faire taire une bonne fois pour toutes. Et ces hommes, donc, se rassemblent autour de Jésus, mais pour chercher une faille chez Jésus, pour lui tendre un piège. C'est leur but. Et c'est ainsi qu'ils s'engouffrent dans la première faille qu'ils trouvent chez Jésus et ses disciples à propos du lavement des mains. Alors cela peut nous sembler vraiment mineur, voire même assez banal. On pourrait dire que c'est vraiment une controverse pour des enfantillages finalement. Mais dans ce passage, le fait de ne pas se laver les mains n'a rien à voir avec un manque d'hygiène. Ce n'est pas un problème d'hygiène. Pour les Juifs, les mains non lavées sont beaucoup plus que des mains sales. Ce sont des mains impures, ce qu'ils disent au verset 2. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures. C'est un problème de pureté, pas d'hygiène. Le problème n'est pas lié à l'hygiène, mais à l'impureté rituelle. Et cela me permet de vous donner la première grande leçon très importante de ce passage pour tous les parents. Vous pouvez continuer à dire avec vos enfants en toute bonne conscience de se laver les mains avant de manger. Jésus ne vous l'interdit pas. Première grande leçon. Il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Il faut savoir en tout cas que le lavement des mains est effectivement mentionné dans l'Ancien Testament comme un rite de purification, dans certains cas bien précis, et puis pour les prêtres, au moment où ils allaient accéder au temple ou au tabernacle pour leur service. Donc ce lavement des mains existe dans la loi de Moïse. Mais les pharisiens, à cause de leur idéal de pureté, avaient étendu ces exigences rituelles à beaucoup d'autres situations de la vie quotidienne, comme les repas par exemple. Pour eux, il était particulièrement important de faire les gestes convenables en revenant par exemple de la place publique, parce qu'ils risquaient dans la place publique de croiser des païens, de toucher des choses qu'ils considéraient impures comme l'argent, et donc ils voulaient se laver les mains, ils voulaient être purs rituellement en faisant ces choses-là. Et ce lavement des mains rituel, à l'origine qui était une simple coutume, est peu à peu devenu une règle rigide, voire très rigide, parmi les Juifs. Et ce précepte du lavement des mains était si rigoureusement observé qu'on raconte qu'un rabbin du nom d'Akiba, qui a été emprisonné, et qui avait seulement l'eau nécessaire à le maintenir en vie, préféra se laver les mains pour manger plutôt que d'utiliser ce peu d'eau pour boire, jusqu'à en mourir même de soif, pour voir à quel point ce précepte était rigide. Alors il y aurait eu sans doute de bien meilleurs thèmes pour avoir un débat théologique avec Jésus que simplement cette question de lavement des mains. Mais les chefs religieux en profitent pour englober cela sur une question d'ordre général. Ils posent cette question à Jésus au verset 5. « Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition des ancêtres ?» Pourquoi ne se conforment-ils pas à la tradition des ancêtres ? Toutes ces règles à propos du lavement des mains et de bien d'autres choses ne se trouvaient pas dans la loi de Moïse, mais faisait partie de ce qu'on appelait la tradition des ancêtres. Qu'est-ce que c'est ? Cette tradition des ancêtres, elle date de l'époque qui a suivi le retour du peuple d'Israël après l'exil, vers 500 ans avant Jésus-Christ, où les rabbins juifs ont fixé tout un tas de règles très précises sur tous les aspects de la vie, fondées sur leur interprétation de la loi avec des ajouts supplémentaires. Ces règles, à l'époque de Jésus, étaient transmises de façon orale, jusqu'à ce qu'elles soient écrites. C'est ce qu'on retrouve dans le Talmud et la Mishnah, c'est écrit au IIIe siècle, que les Juifs observent encore aujourd'hui, en tout cas les Juifs qui se disent pieux. Concernant le lavage des mains, par exemple, les consignes étaient très précises. Les rabbins expliquaient la quantité d'eau à utiliser, le temps à y consacrer, la manière d'y plonger les mains. Ils ne faisaient pas les choses n'importe comment. Il y a tout un ensemble de règles très précises. Et toutes ces prescriptions, à n'en plus finir, dictaient chaque aspect de la vie du juif qui voulait être pieux, selon ce système de règles. Et elles étaient considérées, toutes ces règles, aussi importantes que la loi de Moïse, elle-même. D'ailleurs, le commentaire de Marc au verset 4, où il dit comme quoi les Juifs avaient beaucoup d'autres traditions qu'ils observaient, montre que le problème du lavant des mains, c'est que le sommet de l'iceberg. Il y a tout un système religieux, tout un système traditionnel derrière ce lavement des mains. Et c'est le fruit d'hommes qui aimaient particulièrement couper les cheveux en quatre, étaient fascinés par tous les petits détails qu'ils croyaient observer dans la loi de Moïse, plutôt que d'essayer de discerner l'esprit du commandement, l'esprit de la loi de Dieu. Donc ces hommes viennent et dénoncent Jésus. Et face à cette question, la réponse de Jésus ne se fait pas attendre, et il va leur rentrer dedans comme jamais. Jésus n'essaye absolument pas de calmer le jeu. Au contraire, il jette volontairement de l'huile sur le feu. On est presque, peut-être, vous êtes presque étonné de voir à quel point Jésus, on aurait l'impression, surréagit par rapport à cette question. Il n'y va pas de main morte. Il commence fort en les traitant d'hypocrites. La dévotion de ces chefs religieux, tout ce système religieux traditionnel qu'ils avaient, n'est que de l'hypocrisie aux yeux de Jésus. Et cette vive réaction de Jésus s'explique par deux éléments en particulier. D'abord, comme je l'ai dit au début, ces chefs religieux ne sont pas venus pour poser une question à Jésus par curiosité. Ils ne sont pas venus poser cette question à Jésus pour essayer de comprendre pourquoi Jésus agissait ainsi. Non, ils posent cette question dans le but de piéger Jésus. Ils posent cette question pour accuser Jésus. Et Jésus a bien compris qu'il ne cherche pas une réponse à leur question. Ils émettent un jugement sur Jésus. Et c'est pour ça que Jésus ne cherche même pas à répondre à leurs questions, mais répond du tac au tac. Et deuxième élément, surtout, cette question qui pouvait sembler banale, après tout, laver les mains avant le repas ou quoi, c'est peu de choses. Cette question qui semblait banale ne l'est pas du tout. Au contraire, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort parce que, comme on va le voir, notre manière de répondre à cette question peut avoir de très graves conséquences sur notre vie et sur l'éternité. Le gros problème de la tradition des ancêtres n'était pas forcément qu'il s'agissait d'une tradition. La tradition n'est pas forcément mauvaise en soi. Il y a des traditions qui existent pour une bonne raison. Toute église, toute famille possède ses propres traditions. Non, le problème n'est pas que la tradition des ancêtres en elle-même. Le problème, c'est que cette tradition avait surpassé la loi de Moïse, était plus importante que la parole de Dieu pour ces chefs religieux juifs. Et Jésus accuse les chefs religieux d'abandonner la loi de Dieu au profit de la tradition des ancêtres. Il le répète par deux fois, au verset 8 et 9, il dit « Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. » Puis il ajouta, il répète à nouveau « Ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. » Et tout le problème est là. Vous avez rejeté le commandement de Dieu pour respecter la tradition des hommes. Vous avez rejeté ce qui était divin pour chercher à suivre des conseils humains. Et Jésus met bien le porte-à-faux entre les deux. Il y a quelque chose qui est divin et quelque chose qui est humain. Et le problème est là. La tradition des ancêtres était devenue très mauvaise et même mortelle. Pourquoi ? Parce que les gens confiaient leur sort éternel dans un système qui était faux. Les gens pensaient qu'en suivant une tradition humaine, celle des ancêtres, cela les rendait purs aux yeux de Dieu. Et c'était faux. C'était faux. Et donc les gens confiaient leur sort éternel sur quelque chose qui n'allait les amener nulle part. C'est pour cela que cette question est tellement sérieuse et importante. Et c'est pour ça que Jésus réagit avec tellement de vigueur. Au-delà du lavement rituel des mains, c'est tout un système mensonger que Jésus dénonce parce qu'il détourne les hommes de Dieu. Jésus dénonce ce système. Jésus poursuit sa contre-attaque en évoquant un cas concret pour souligner ce qu'il veut dire. L'attaque des chefs religieux s'est concentrée sur un détail, le lavage des mains. Jésus répond par un autre détail, versets 10 et 11, le corban. Corban. Corban est un mot hébreu qui signifie « offrande ». Il s'agissait en fait de la promesse d'un don financier pour le temple, mais qui pouvait être finalement fait après le décès de la personne qui avait fait cette promesse. Celui-ci pouvait donc continuer à utiliser cet argent pour ses propres besoins, comme il le voulait, mais pas le donner à quelqu'un d'autre. Au départ, il s'agissait d'une offrande volontaire au temple, qu'on retrouve dans la loi, en Lévitique 27, mais progressivement, le temple l'a imposé comme une règle obligatoire. La personne donc qui avait prononcé ce vœu pouvait donc en toute liberté profiter de son argent, tout en étant exemptée du cinquième commandement, celui d'honorer ses parents en cas de besoin, en leur venant en aide. Au final, il s'agissait d'un problème bien plus grave que celui des mains impures pour un repas. Et Jésus dénonce le mépris de la volonté de Dieu dans la solidarité familiale à ce niveau-là. C'est de cette manière que la tradition des ancêtres prenait le pas sur la loi. Et l'annulaient. Comme Jésus le dit au verset 13, « Voilà comment vous annulez la parole de Dieu. » Parce que cette tradition, non seulement était supérieure aux yeux de beaucoup de juifs, mais l'application de cette tradition annulait ce que la parole de Dieu exigeait. Que retenir pour nous aujourd'hui de ces quelques détails sur la loi ? Si je vous parle de tradition religieuse, vous avez peut-être sans doute pensé d'abord aux églises de multitude, les églises à laquelle on appartient par naissance, comme les églises catholiques, les églises luthériennes, orthodoxes, etc. Et c'est vrai qu'ils sont remplis de traditions. J'étais encore hier pour un mariage dans une église catholique d'un de mes collègues. C'est incroyable la lourdeur des choses. C'est incroyable à quel point on fait croire à des gens qui sont bien, qui éthiquement, j'ai rien à redire sur mon collègue, mais qui ne connaissent pas Christ, à quel point on leur fait croire qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont disciples de Jésus, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et il y a tellement de lourdeur. Mais il y a aussi des lourdeurs et des traditions dans nos églises de professants, les églises à laquelle on appartient par choix. Est-ce que nous n'avons pas nos propres traditions religieuses ? Oui, non ? Bien sûr que si. On a nos traditions religieuses. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas mauvais en soi d'avoir une tradition religieuse. À deux conditions, cependant. D'abord, j'ai un grave problème si je contredis la parole de Dieu avec ma tradition. Si une tradition religieuse est plus importante que la parole de Dieu, alors il y a un grave problème dans l'Église. Par exemple, si je crois, comme pouvait le faire le religieux de l'époque de Jésus, que mon comportement me rend digne de Dieu, je me plante. Si je crois, par exemple, que c'est mon style vestimentaire du dimanche matin, que c'est le style de musique que je peux écouter, par exemple, dans la semaine, ou XXX, qui me rend digne de Dieu, mais je me trompe complètement. Je suis indigne de Dieu, quel que soit mon style vestimentaire, quelle que soit la musique que j'écoute. Ce n'est pas ça le fond du problème. J'ai un grave problème aussi si je préfère à la parole de Dieu ma tradition. Si je préfère une quelconque tradition religieuse à la parole de Dieu, alors il y a un grave problème dans l'Église. Par exemple, c'est plus important pour moi de donner une bonne image de moi sur certains principes extérieurs dans le temps de culte que nous vivons ensemble le matin, pour entrer dans un certain moule de manière hypocrite, au lieu d'être placé sous le regard de Dieu, je me trompe complètement aussi. Poursuivons la lecture, au verset 14. Puis Jésus appela de nouveau la foule et lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez-moi bien. Rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. » C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsque Jésus, laissant la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de leur expliquer le sens de cette image. Et il leur répondit, « Ainsi, vous aussi, vous ne comprenez pas ? Ne saisissez-vous pas ce que je veux dire ? De tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre. Et évacué par les voies naturelles, et déclaré par là même que tous les aliments sont purs. Il ajouta, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil, et à toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. » Après avoir mis KO les chefs religieux, Jésus donne maintenant un enseignement, une réponse claire à la question de l'impureté à la foule. Il donne d'abord un principe général à la foule et ensuite il explique plus en profondeur à ses disciples, qui comme d'hab, n'ont pas tout saisi. Jésus énonce cet enseignement révolutionnaire pour les juifs de l'époque et il veut que tout le monde le sache bien. Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui me rend impur, mais c'est ce qui vient de l'intérieur qui fait mon impureté. C'est révolutionnaire pour les juifs de cette époque, car pour eux, c'est le contact externe avec le péché et le pécheur qui rendait quelqu'un impur. Et ils fondaient leur pensée sur les nombreuses lois de l'Ancien Testament, et c'est vrai qu'il y en a plusieurs, concernant tout ce qu'il ne fallait pas toucher pour ne pas se rendre impur rituellement. Mais Jésus leur explique que l'impureté ne provient pas de l'extérieur, mais qu'elle est intérieure. C'est ce qui sort de moi qui démontre mon impureté. C'est comme le slogan d'il y a quelques années du yaourt bio Activia, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce slogan, « Ce qu'on fait à l'intérieur se voit à l'extérieur ». Alors, dans le yaourt bio Activia, c'est plutôt positif. Là, c'est plutôt négatif. Ce qu'on fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Notre impureté intérieure se voit à l'extérieur. Ce n'est pas une quelconque impureté extérieure qui me contamine. Je suis contaminé par l'impureté. Une personne n'est pas souillée moralement parce qu'elle mange, main lavée ou pas. Quelqu'un se rend impur par ses pensées, même s'il observe scrupuleusement des rites extérieurs, quels qu'ils soient. Et par son enseignement, Jésus contredit directement les chefs religieux en affirmant que la pureté devant Dieu n'est pas une question de pratique religieuse. La pureté devant Dieu n'est pas une question de pratique religieuse. La pratique religieuse peut facilement devenir un pansement qu'on étale en surface, alors que le mal est intérieur. Si j'ai le bras cassé, ce n'est pas en mettant un pansement dessus que ça va faire quelque chose. C'est quelque chose que Rousseau a loupé lorsqu'il a affirmé que l'homme n'est bon, sa société qu'il corrompt, mon œil. Non, l'homme n'est pas bon. Il est impur par nature, comme le dit Paul en Éphésiens 2, verset 3. Nous étions par nature destinés à subir la colère de Dieu. Nous étions par nature pécheurs, impurs aux yeux de Dieu. Et peu après, Jésus explique mieux son enseignement à ses disciples en évoquant ce qui entre dans l'homme et ce qui sort de l'homme. Ce qui entre dans l'homme, du verset 18 au verset 19. Tout ce que nous mangeons nous redonne des forces pour un temps et le reste va aux toilettes. On ne peut pas être plus clair. Ce n'est qu'une histoire de ventre et c'est tout, d'estomac. Ça n'a l'air de rien, mais en affirmant cela, Jésus renversait toute la loi mosaïque, car la distinction entre les aliments purs et impurs était une distinction forte pour faire une distinction entre les juifs et les païens. Et Jésus montre aussi par là, par cet enseignement, que c'est lui qui est le maître de la loi. La loi n'est pas maître sur Jésus, Jésus est maître sur la loi. Et à propos de ce qui sort de l'homme, du verset 20 au verset 23, Jésus nous explique que le mal n'est pas dans le ventre. Non, il est plus profond, il est dans le cœur. Ce qui nous souille, ce qui nous rend impurs, c'est ce qui sort de notre cœur. Ce qui souille, c'est le péché que Jésus détaille au verset 21, du verset 21 au verset 23, où on trouve 12 éléments, 6 actions mauvaises individuellement et 6 mauvaises dispositions exprimées au singulier. Et tout cela, ces exemples, montrent le cœur et l'impureté du cœur de l'homme. Là encore, que retenir pour nous? D'abord, nous devons être conscients du problème de l'impureté. Jésus insiste avec ses disciples sur le fait que le cœur humain est foncièrement et naturellement porté au mal. Nous avons tous le même problème, et aucun dans cette salle n'y échappe. On a tous le même problème. Nous sommes impurs, car nous sommes pécheurs éloignés de Dieu. Si nous ne le réalisons pas, alors nous sommes perdus. Parce que comme le dit Jésus en Marc 2, verset 17, les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Être chrétien, ce n'est pas se croire supérieur, ce n'est pas se croire bien portant. Mais c'est réaliser justement que j'ai un grave problème et que je suis sans solution. Je ne peux rien faire pour le résoudre. Est-ce que chacun d'entre nous, ce matin, nous avons bien réalisé que nous avons un problème et qu'on est foutu? Foutu. Est-ce que nous avons réalisé cela? Parce qu'on n'est pas capable de résoudre ce problème. Mais nous devons aussi avoir conscience de la solution à l'impureté. Se laver les mains ne purifie pas le cœur. Je n'ai rien dit d'exceptionnel là. Mais c'est une réalité. C'est qu'un problème d'hygiène, pas de spiritualité. Cela paraît d'une logique implacable. Et pourtant, combien d'entre nous encore croyons qu'en pratiquant certaines choses, nous allons nous rendre meilleurs, plus purs devant Dieu, en faisant telle ou telle chose? Combien d'entre nous, on se repose sur une pratique extérieure comme principe ou fondement de notre foi? Dieu n'a pas créé une religion de l'extérieur, où il faut suivre tout un tas de règles pour essayer d'être pur, mais une spiritualité de l'intérieur, où c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous, qui travaille notre cœur, qui travaille là où ça fait mal, là où il faut faire des choses. Je vous cite un extrait du célèbre livre « Le voyage du pèlerin », une allégorie de la vie chrétienne écrite par John Bunyan. L'interprète prit la main de Chrétien. Chrétien, c'est les héros du livre. Donc l'interprète prit la main de Chrétien et le conduisit dans une grande salle pleine de poussière parce qu'elle n'était jamais balayée. Lorsque Chrétien lui considéra un instant, l'interprète appela un homme pour qu'il la balaye. Mais la poussière s'éleva avec une telle abondance que Chrétien en fut presque suffoqué. L'interprète ordonna alors à une jeune fille qui se tenait près de là d'apporter de l'eau et d'en arroser le plancher qu'on put ensuite nettoyer promptement et sans peine. « Que signifie ceci ?» demanda Chrétien. « Cette salle, dit l'interprète, représente le cœur d'un homme qui n'a jamais été purifié par la grâce de l'Évangile. La poussière, c'est le péché qui souille l'homme tout entier. Celui qui a balayé le premier, c'est la loi. Celle qui a porté l'eau et l'a répandue sur le plancher, c'est l'Évangile. Le fait que la poussière s'est élevée de tous côtés et a presque étouffé sans que la chambre ait été nettoyée signifie que la loi, loin de pouvoir purifier le cœur de l'homme par ses œuvres, ne fait que rendre le péché plus vivace et plus puissant. Elle augmente à mesure qu'elle l'interdit et ne donne aucune force pour le surmonter. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'observation d'une tradition religieuse, quelle qu'elle soit, ne peut pas nous sauver. Au contraire, ça rend plus vivace notre péché. Parce que soit on va être capable de suivre cette tradition religieuse et ça va nous emmener à l'orgueil, soit on va être incapable de suivre cette tradition religieuse, ça va nous mettre plus bas que terre. Mais ce n'est pas ça qui peut nous purifier. Par ses paroles, Jésus nous démontre que ce ne sont pas nos pratiques religieuses extérieures qui démontrent notre foi, mais ce qui sort de notre cœur à travers nos paroles, nos actes, nos pensées. Et la question se pose à chacun d'entre nous encore une fois. Qu'est-ce qui sort de mon cœur? Est-ce que ce qui sort de mon cœur démontre ou non ma foi? Qu'est-ce qui sort de mon cœur? Jésus, après avoir eu cette controverse sur l'impureté, après avoir expliqué l'impureté, donné un enseignement là-dessus, va être maintenant confronté à l'impureté, au verset 24. Jésus partit de là et se rendit dans la région de Tyr. Il entra dans une maison. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là, mais il ne put cacher sa présence. En effet, à peine était-il arrivé qu'une femme qui avait entendu parler de lui et dont la fillette était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint se jeter à ses pieds. C'est une femme païenne, originaire de Syrophénicie. Elle le supplia de chasser le démon qui tourmentait sa fille. Et Jésus lui dit, « Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » « Sans doute, Seigneur, reprit-elle, mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes que laissent tomber les enfants. » Et Jésus de répondre, « À cause de cette parole, va, retourne chez toi, le démon vient de sortir de ta fille. » Elle rentra chez elle et trouva son enfant couché sur le lit. Le démon était parti. Peu après cet enseignement, Jésus se rend à Tyr, une ville portuaire de la Méditerranée, située en Phénicie, l'actuel Liban. C'est l'une des rares fois où Jésus quitte le territoire d'Israël pour se rendre dans un territoire impur, un territoire païen, non juif. Jésus s'y rend incognito. Quelque part, il a mis la casquette et une lunette de soleil pour pas qu'on sache que c'est lui qui arrivait. Personne ne le reconnaisse. Pourquoi cela? Pourquoi une telle attitude chez Jésus? Il veut sûrement prendre du temps en un à un avec ses disciples. Et c'est pour ça qu'il s'est éloigné, pour ne pas être accaparé par la foule qui lui demande des guérisons, des miracles, pour ne pas être accaparé par les religieux avec qui il y a toutes ces controverses tout le temps, mais pour prendre le temps, un moment, avec ses disciples, seuls, ensemble, pour les enseigner. Et pourtant, malgré toutes ces précautions, une femme l'a repéré. Le texte nous dit qu'à peine Jésus était-il arrivé, cette femme s'est précipitée sur lui. Elle était aux aguets. Et pour n'importe quel juif, cette femme est l'exemple type de l'impureté. Pourquoi? D'abord, désolé mesdames, parce que c'était une femme. Et à l'époque, il faut se rappeler que tout homme juif formulait cette prière chaque jour. « Seigneur, merci de n'être ni esclave, ni païen, ni femme. » Heureusement, les choses ont évolué. Ensuite, parce que c'était une païenne, cette femme est une descendante des Cananéens. Des Cananéens, un peuple que Dieu avait maudit pour leur immoralité. Un peuple que Dieu avait voué à l'interdit. Et ensuite, enfin, parce que c'est une femme qui est confrontée à un problème d'impureté particulier. Parce que sa fille est sous l'emprise d'un esprit mauvais, et d'autres traductions disent d'un esprit impur, qui lui a sans doute fait commettre des choses impures. Cette femme est dans un contexte d'impureté totale. Et cette femme savait sûrement qu'elle ne possédait aucun des critères religieux, moraux ou culturels qui lui permettaient simplement d'envisager d'aller voir un rabbin juif tel que Jésus. Mais elle le fait quand même, sans demander aucune permission, elle rentre dans la maison. Elle se précipite sur Jésus pour le supplier de délivrer sa fille. Malgré tous ses handicaps sociaux et moraux, cette femme s'est précipitée, s'est jetée devant Jésus, dans une démarche de profond respect. Et suite à sa demande, on se dit, Jésus va guérir cette femme. La fille de cette femme, simplement, elle a fait un bel acte de foi. Et là, patatras, on se demande, mais qu'est-ce qui lui arrive à Jésus ? Je ne sais pas si quand vous avez lu ce texte pour la première fois, c'est quoi ces paroles de Jésus ? Pourquoi il réagit ainsi ? On a presque l'impression qu'il se moque d'elle. Pourquoi Jésus a des paroles qui semblent si dures pour cette femme ? Cette femme qui a eu le courage d'aller vers lui, malgré tous ses handicaps. Jésus explique d'abord à cette femme qu'il est venu pour les enfants de la maison, au verset 27. Les enfants de la maison, c'est bien sûr le peuple juif. Il est venu d'abord pour les enfants de la maison, pour le peuple juif, et pas pour une femme païenne, pas pour une femme cananéenne comme elle. Jésus semble ensuite presque l'insulter. Il traitait quelqu'un de chien, c'est pas joli joli, hein. Surtout qu'à l'époque, c'était en général des charognards, des animaux sauvages, sales, et les juifs avaient justement l'habitude de traiter les païens de chiens. C'est ainsi qu'ils évoquaient les païens. Est-ce que Jésus est en train de se moquer de cette femme ? Oui, non ? Fais un vote. Non. Il utilise une métaphore. Jésus utilise un autre terme, d'ailleurs, que le mot chien. Il utilise un diminutif, qui signifie simplement petit chien ou chiot. C'est plus mignon, on va dire. Il n'est pas désobligeant, en tout cas. Il n'est pas désobligeant. Mais il parle de manière à ce que cette femme comprenne bien quelle est la priorité de Jésus. Et Jésus a une priorité dans son ministère. Et sa priorité, c'est le peuple juif. Il y a un ordre à respecter. Et Israël, sa priorité pour le moment. Maintenant, imaginez-vous à la place de cette femme. Vous venez demander à Jésus quelque chose et vous dit, t'es pas ma priorité, j'ai une autre priorité. Comment est-ce que vous auriez réagi ? Est-ce que vous auriez crié à l'injustice ? Ça paraît pas injuste pour vous ? Vous n'auriez pas crié à l'injustice ? Est-ce que vous auriez traité Jésus tous les noms ? Pour lui répondre du tac au tac. Cette femme ne réagit pas du tout comme ça. Elle n'en veut pas à Jésus. Et elle répond avec humilité. Parce que peut-être qu'elle a entendu un mot important dans la phrase de Jésus. C'est quoi ce mot ? C'est au verset 27, il dit, Jésus dit, d'abord. Il dit au verset 27, laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison. D'abord. Qu'est-ce que ça veut dire s'il y a un d'abord ? C'est qu'il y a un ensuite. C'est qu'il y a un ensuite, forcément. Il y a un temps qui va venir où les païens, comme elle, pourront aussi bénéficier de la grâce de Dieu. Et si ce temps était venu ? Et si c'était aujourd'hui, maintenant, que ce temps pouvait venir pour elle ? Donc cette femme répond avec humilité et foi et montre à Jésus qu'elle est bien consciente de son impureté et de son péché, au verset 28. Elle dit, sans doute, Seigneur, reprit-elle, mais les petits chiens. Donc elle est consciente de son impureté, de son indignité face à Jésus. Les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes que laissent tomber les enfants. Elle se met plus bas que terre devant Jésus. Et à cause de cette parole qui vient de l'intérieur de son cœur et qui démontre sa foi en Christ, Jésus lui répond que sa fille est guérie à l'instant même, à distance. Et la foi de cette femme est encore démontrée par son attitude par la suite, puisqu'elle croit aux paroles de Jésus, elle ne demande pas une preuve, elle retourne chez elle et elle constate que sa fille est guérie. Là encore une fois, que retenir de ce passage ? D'abord, que l'impur peut aller vers le pur. Rien ne prédisposait cette femme à pouvoir rencontrer Jésus. Que ce soit au niveau religieux, social, moral, cette femme n'avait aucune qualité pour approcher Jésus. Aucune. Elle savait qu'elle était indigne et qu'elle ne méritait rien de la part de Jésus. Et pourtant, elle a été attentive à la venue de Jésus et elle a osé aller vers lui. Elle, l'impure, a osé aller vers le seul pur. Et cette histoire nous démontre que quel que soit le parcours chaotique que nous pouvons avoir les uns et les autres derrière nous, Jésus nous accepte parce que l'impur peut aller vers le seul pur. Tous les impurs peuvent rencontrer le seul qui est pur. Et deuxième chose, l'impur peut même devenir pur. Les paroles pleines d'humilité de cette femme démontrent qu'elle a bien compris qu'elle ne méritait rien de la part de Jésus. Et d'une certaine manière, voilà ce qu'elle dit à Jésus. « Je ne te demande pas quelque chose que je mérite à cause de ma bonté, mais je te demande quelque chose que je ne mérite pas à cause de ta bonté. Je ne demande pas quelque chose à cause de ma bonté, mais à cause de ta bonté pour moi. » Parce qu'elle est consciente qu'elle ne mérite rien et que seule la grâce de Dieu peut délivrer sa fille, Jésus la guérit. Parce qu'il a compris son impureté intérieure et son besoin de grâce de la part de Jésus, une grâce imméritée. Et cette guérison démontre la capacité de Christ à rendre quelqu'un d'impur pur, à délivrer définitivement le pécheur de son péché et de le faire devenir enfant de Dieu. Job disait en Job 14, verset 4, « Qui peut tirer le pur de l'impur ?» Qui peut tirer le pur de l'impur ? Et il répond, personne. On ne peut pas, non pardon, il ne répond pas personne, il répond pas un seul, pardon, pas un seul. On ne peut pas retirer du pur de l'impur, c'est impossible, sauf à Dieu. C'est le message de grâce qui traverse toute la Bible. Il y a un espoir pour l'impur, pour le pécheur, et cet espoir s'appelle Christ. En conclusion, ce texte qui nous parle d'impureté nous met devant trois questions essentielles pour notre vie, auxquelles nous devons tous répondre un jour ou l'autre. Première question, comment est-ce que je me considère ? Est-ce que je me considère comme quelqu'un de pur ou d'impur ? Si je me considère comme pur, les autres questions n'ont pas, c'est pas la peine de se les poser. Si j'ai compris que j'étais impur, comment est-ce que j'essaye de me purifier ? Avec quoi, quels moyens je parviens à la pureté ? Par une pratique religieuse ? Par une discipline quelconque ? Par mes propres efforts ? Troisième question. Si j'ai compris que j'étais impur et que je n'avais aucune solution personnelle, aucun effort, aucune pratique, rien de ce que je peux faire pour me sauver, est-ce que j'ai réalisé enfin que je peux aller vers Christ, qui lui seul peut me rendre réellement pur. Je ne sais pas où vous en êtes, chacun, dans ces trois questions. Et je prie que chacun d'entre vous arrive à cette troisième question et comprenne qu'il peut venir à Christ. Et peut-être parmi nous, il y en a plusieurs qui sont arrivés à cette troisième question depuis des décennies, peut-être même, des années et des années. Est-ce que nous savons, nous n'oublions pas parfois notre impureté ? Est-ce que nous croyons parfois, avec les années, qu'on vaut mieux que d'autres ? Est-ce que nous pensons que finalement, Dieu a fait une bonne affaire en nous prenant avec lui ? Nous devons nous remémorer ce parcours, ces trois questions, même si nous avons déjà répondu à toutes ces questions. J'ai déjà répondu à ces questions. Beaucoup parmi nous ont répondu à ces questions. Mais nous devons nous remémorer ces questions pour nous souvenir d'où nous venons et nous venons de très loin. Amen.